quelle que soit l'élection, préoccupe à juste titre le milieu militant à gauche et à l'extrême gauche. Cela, d'autant plus que le Front National trouve de plus en plus facilement des milliers de candidats et des élus à s'afficher publiquement FN, au municipal ou aux dernières cantonales. Même loin du pouvoir, le renforcement du Front National pèse sur toute la société, sur la vie politique, à droite comme à gauche, et pèse surtout dans les têtes. Et notamment dans les têtes de la fraction des travailleurs, tout en se justifiant en disant on ne l'a jamais essayé, en arrive à donner sa voix à leur pire élu, un parti électeur qui est profondément réactionnaire, nationaliste, raciste, xénophobe, et surtout facteur d'une division mortelle des travailleurs entre eux. Alors oui, la progression du Front National est un problème qui se pose à tous les militants ouvriers. Cependant, avant de discuter de la politique qu'il faut mener, il faut comprendre ce qu'est le Front National et quelles sont ses perspectives. Alors les récents conflits internes au Front National sont symptomatiques de sa progression. Ils ont mis en évidence les problèmes politiques qui se posent à l'extrême droite. Et il y a manifestement deux lignes qui s'affrontent et qui en même temps se nourrissent l'une l'autre. Car cet affrontement n'est pas un affrontement sur des questions de principe, mais l'idée de fond. Le discours de Marine Le Pen au 1er mai aurait très bien pu être celui du père, tant il reprenait à son compte le vieux fonds de commerce anti-immigré, anti-pauvre de l'extrême droite. L'affrontement entre ces deux lignes relève en fait bien plus de l'attitude de la politique à adopter pour parvenir au pouvoir. Le courant officiel, celui représenté par Marine Le Pen depuis 2011, est celui dont la ligne est la conquête du pouvoir politique par la voie électorale, par la voie institutionnelle. Et cela dans des termes relativement courts dans la République. Ce courant est représenté également par Philippot, Alliot, Achille, Ratier, deux nouveaux sénateurs maires du Front National. Leur ligne politique repose sur un constat de leur part. Dans un contexte où il n'y a pas de lutte sociale d'envergure, où la grande bourgeoisie n'est pas menacée par un prolétariat organisé et combatif, dans un contexte où il n'y a pas non plus des centaines de milliers de petits bourgeois désespérés, radicalisés, prêts à descendre dans la rue, les succès électoraux du Front National ouvrent une voie possible pour cette bande de jeunes loups arrivistes pour prendre le pouvoir, ou à défaut, des petits pouvoirs, des postes de responsabilité. Et pour cela, il leur faut réunir deux conditions. La première, c'est de rassembler au-delà de leur milieu traditionnel d'extrême droite, et donc d'adapter leur langage en fonction, de polir leur image, d'effacer ce qui choque trop, de se dédiaboliser selon le mot consacré. C'est ce qui explique sans doute le très ostensible virage opéré dans la démagogie du Front National. À la dénonciation haineuse des immigrés, et aujourd'hui l'islam, au discours sécuritaire et au nationalisme hystérique, se sont ajoutées de nouvelles thématiques. Contre l'ultralibéralisme, contre les provisions 2 et 440, et après avoir dit que les altermondialistes posent de bonnes questions, Marine Le Pen a même souhaité la victoire de Syriza en Grèce. Les magogues sont prêts à dire tout ce qui rapporte. La plus importante sans doute pour eux, c'est de se rendre acceptable aux yeux de la bourgeoisie et de ses cadres, ce qu'ils n'ont pas encore vraiment réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Cela veut dire donner des gages qui seront les gérants loyaux du système en garantissant de ne pas bousculer ou de ne pas provoquer des vagues qui gêneraient plus la bourgeoisie que cela ne l'arrangerait. La politique de Marine Le Pen ne représente évidemment pas un changement dans la nature du Front National ni dans son idéologie. Ce qui caractérise les démagogues, c'est précisément d'être capable d'adapter leur discours aux besoins de la cause en toutes circonstances. L'autre politique possible est celle du fondateur du Front National, Le Pen père, qui affirme régulièrement ses références. Pétain, l'EAS, la conquête du pouvoir par les moyens extra-parlementaires, l'église, la rue, le rond-point. Cette politique, s'il est aujourd'hui capable de rassembler des cadres dirigeants, cette politique n'en fait pas de troupes. Car la situation économique... Car la situation économique, la crise, ne lui a pas encore peut-être rendu ses troupes. Elle a cependant des cadres potentiels qui ont été recrutés au FN sur cette base, qui en forment l'ossature et qui peuvent soit penser que les succès électoraux ont eu ou une situation où ils peuvent accéder à des postes, soit penser, comme le même faire, qu'accéder au pouvoir dans le cadre des institutions et des institutions actuelles n'est pas possible ou pas souhaitable et qu'il faut même se préserver le langage des cadres pour un changement de situation politique, situation où la lutte de classe s'exaspérerait et où un Front National aux méthodes plus musclées apparaîtrait comme le recours à la bourgeoisie. Les succès de Le Pen père dans les rangs du Front National le 1er mai ou dans les colonnes de Parole rappellent qu'il est loin d'être isolé dans son parti. Et il est possible que la dédiabolisation entreprise par Marine Le Pen passe mal auprès d'une fraction du parti. Une fraction que Le Pen père n'entend manifestement pas perdre. C'est sans doute pour cela qu'il a parlé récemment de créer une structure pour les rassembler en marge du FN, une structure qui n'entrerait pas en concurrence électorale avec le FN, mais qui en quelque sorte leur permettrait d'attendre leur tour. Sur la base des élections, le Front National grossit et attire. Les conflits internes sont le fruit de cette croissance. Sur la base d'une vie politique qui joue actuellement la carte de l'intégration. Mais en fait, ces deux vies s'opposent, mais aussi se complètent. Elles s'opposent quand il s'agit de s'adresser à des millions d'électeurs, d'attirer des notables locaux pour diriger des départements et des régions. Elles s'opposent aussi quand il s'agit de convaincre aujourd'hui la bourgeoisie que le FN est un parti responsable capable de gouverner. Le patronat sait qu'il n'a rien à craindre du FN quant à la défense de sa propriété privée. Et les politiciens et les carriéristes au Front National ne font pas partie du personnel politique traditionnel de la bourgeoisie. Ce personnel est pour le moment à l'UMP ou au Parti Socialiste. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transfuge entre l'UMP et FN, par exemple, ou qu'il y aurait de profondes différences idéologiques entre eux. Mais jusqu'à présent, la bourgeoisie a choisi d'exclure le Front National de ceux à qui elle fait confiance. La démagogie du Front National contre l'Union Européenne et contre l'euro, son protectionnisme en matière économique, sont ainsi totalement opposés à la politique souhaitée par la grande bourgeoisie qui cherche à maintenir l'Union économique et la zone euro, malgré tout. Si le Front National parvenait au pouvoir, il serait sans aucun doute la politique souhaitée par la grande bourgeoisie. Y compris en ce qui concerne l'Union européenne et la zone euro. Et vu le positionnement actuel du Front National, cela ne se ferait probablement pas sans dégâts, sans crise politique. C'est pourquoi les patronaux ne font rien pour faciliter l'accès du FN au pouvoir. Un exemple pour Lyon, le Front National n'a pas trouvé une banque en France pour financer sa campagne. Alors la décapitalisation chère à Le Pen consiste surtout à démontrer à la grande bourgeoisie que le FN est compatible avec l'exercice de pouvoir. Cela dit, et c'est là où les deux lignes se complètent, la ligne de Le Pen père se nourrit lui aussi en fait des succès électoraux actuels du Front National. Ainsi les plus réactionnaires, comme pas seulement les groupes identitaires présents au Front National, se renforcent, recrutent, trouvent un milieu et pointent chute dans les mairies des uns ou des autres. Avec la banalisation des idées racistes, ils sont portés par un courant qui se développe. Et comme dans d'autres pays, ils pourraient se sentir de plus en plus libres de s'en prendre physiquement à des militants politiques, syndicaux, antiracistes. L'avenir du Front National sera déterminé en dernier ressort par l'évolution de la situation économique et par l'évolution des rapports de forces sociaux. Si l'aggravation de la crise se traduit par une aggravation de la lutte de classe, par des richesses de la classe ouvrière et aussi par une radicalisation de la petite bourgeoisie. Les partisans des méthodes musclées à l'extrême droite, les méthodes de type fasciste, seront alors disponibles et bien en force pour rendre service à la bourgeoisie. Le FN, au décorant qui s'en seront aujourd'hui, pourra accoucher une formation fascisante s'employant à faire le coup de poing contre la classe ouvrière. Et si la situation politique actuelle se prolonge et que le FN continue de se renforcer, on assistera peut-être à l'émergence d'un grand parti d'extrême droite, bien réactionnaire, mais intégré au système parlementaire et accepté par la bourgeoisie, comme cela se fait déjà dans plusieurs pays en Europe. En tout cas, les cadres du FN ont choisi pour le moment de montrer leur compatibilité avec les institutions républicaines. C'est le chemin le plus rapide dans ce style pour accéder au pouvoir ou vers des postes de responsabilité. Et c'est pourquoi ils ont décidé, ils ont choisi de mettre en avant les Unitaux, les Collards, les autres Ménards. C'est pourquoi ils ont décidé de mettre sur le côté de la scène Jean-Marie Le Pen. Mais c'est une question de circonstance. Encore une fois, si demain la situation change, ces mêmes chantres de la dédiabolisation pourraient devenir les organisateurs de milices paramilitaires et à défaut de la pratique, ils en ont déjà les idées et les références. Alors si le FN arrivait au pouvoir, même par la voie strictement parlementaire, s'il n'était même qu'associé au pouvoir, avec quelques strapontins ministériels par exemple, il est évident que cela atteindrait encore plus les divisions entre travailleurs. Et en particulier, cela menacerait encore plus directement la fraction immigrée de la classe ouvrière. Ce serait un énorme problème pour la classe ouvrière. Mais les succès électoraux actuels du FN sont déjà en soi un danger pour les travailleurs. Car cela veut dire qu'au sein des couches populaires, les idées réactionnaires, la xénophobie, le racisme, le repli communautaire progressent. Ces idées sont mortifères car elles sont autant de facteurs de division parmi les travailleurs. Et en plus, plus la classe ouvrière est divisée, moins elle est en capacité de se battre. Les travailleurs, les retraités qui votaient jusque-là à gauche ont été tellement déçus et écœurés par la politique du PS au pouvoir qu'ils se sont tournés vers le vote FN à la recherche d'un nouveau sauveur avec l'argument que ceux-là, on ne les a jamais essayés. Le FN réussit donc à se renforcer, y compris au sein de notre classe. Il y a effectivement de quoi s'inquiéter. Mais faut-il encore comprendre les raisons de fond de cette progression? Alors je ne reviendrai pas sur les responsabilités du Parti Socialiste. Mais depuis d'un siècle maintenant, le PS est définitivement une force bourgeoise. Gérer le système capitaliste en crise, en alternance avec la droite, se déconsidérer à grande vitesse, s'attirer la haine des couches populaires, tout cela fait partie de son boulot en quelque sorte. Mais le fait que le PS arrive au pouvoir et s'y discrédite presque instantanément n'aurait pas eu pour effet de renforcer l'extrême droite dans les couches populaires si les partis, les organisations ouvrières et en particulier les staliniens n'avaient pas complètement déboussolé une large partie de la classe ouvrière. Car c'est bien cette politique du PCF qui a dans un premier temps permis au PS d'accéder au pouvoir tout en semant des illusions, en laissant croire que la gauche pouvait être au service des travailleurs, qu'il y avait une solution dans le cadre du capitalisme. Et ce sont ces illusions qui ont été à la source de la démoralisation et de la déception, au point qu'une fraction des gauches populaires en vient à considérer ses pires ennemis comme des sauveurs potentiels. Ce processus a commencé au temps du Front Populaire, où le PC et la CGT ont mis leur influence au service de la SFIO, où ils se sont opposés à la grève générale, se sont refusés à toute perspective révolutionnaire, suivant cela les consignes de Staline. Cela a continué derrière De Gaulle, pendant et après la guerre. Et puis il y a eu les années 80 et différents, et l'Union de la gauche, où le PCF s'est aligné derrière le PS, pour gérer loyalement les affaires de la bourgeoisie. De faux espoirs de changement en déception répétée, il n'y a pas assez pour lieu d'extraction de l'électorat ouvrier, on soit arrivé à chercher un sauveur du côté du Front National. Dans cette politique à la remorque des forces bourgeoises, le PCF a quant à lui progressivement perdu une bonne partie de ses électeurs et de ses militants. Mais il a aussi fait appliquer perdre aux travailleurs et c'est pire leur conscience de classe. La conscience qui forme une classe sociale spécifique, que par-delà les différences de nationalité, de religion, les travailleurs ont des intérêts communs, irréconciliables et opposés à ceux de la bourgeoisie, et qui ne peuvent compter que sur leur lutte politique pour changer leur sort. Le fait que le PCF soit plus au gouvernement depuis 2002 ne change rien. Toute sa politique en fait un membre de la gauche, un partenaire du PS, qui n'offre pas d'autre perspective que le terrain électoral, c'est-à-dire en fait le PS. Leurs appels récurrents au Front républicain, c'est-à-dire à voter pour la droite, sous prétexte de faire barrage au Front national, contribuent à obscurcir la conscience des travailleurs. Tout comme les appels à voter PS pour battre la droite et l'extrême droite, comme aux dernières élections cantonales. Il en va de même sur les terrains des idées. La gauche apporte de fait sa petite mèche au climat réactionnaire quand elle reprend les idées nationalistes, le fond de commerce de l'extrême droite. Elle véhicule ses idées patriotiques parfois jusqu'à la nausée. Quelle différence entre le protectionnisme intelligent de Le Pen, le protectionnisme raisonné de Montebourg, le protectionnisme solidaire de Mélenchon. Quand Mélenchon, auteur d'un livre récent intitulé Le Haron de Bismarck, nous explique que Merkel et l'Allemagne sont responsables de l'austérité imposée à tous les peuples d'Europe, d'obscurcir les consciences en offrant un peu plus de en facture aux travailleurs. Et en plus, il reprend, comme Montebourg à sa manière, l'une des idées fondamentales du FN. Comme si l'austérité n'était pas mise en musique par les gouvernements de chaque pays, quelle que soit leur étiquette politique. Accuser l'Allemagne revient à dédouaner les patrons d'ici de leurs responsabilités, et finalement cela revient à servir la soupe à l'extrême droite en reprenant sa rhétorique. Encore une fois, le PS ou Mélenchon disent que le nationalisme, que le PS ou Mélenchon disent que le nationalisme est une chose. Mais c'est le PCF qui a eu et qui a encore une fois dans la classe ouvrière et qui a fait le plus de dégâts en obscurcissant la conscience des travailleurs par sa propre propagande nationaliste et protectionniste. Je ne vais pas reprendre les propos de Jean de Hollande qui a dit le PCF, mais il est une vérité, c'est que le PCF a depuis longtemps relégué l'internationalisme aux oubliettes. On ne remontera pas à la période de la Seconde Guerre mondiale, mais on pourrait. Dans les années 70, c'est le PCF qui a réclamé dans la bouche de Marchais la régulation de l'immigration. Dans les années 80 et 90, il a fait campagne pour produire français. Au total, alors même qu'il invitait les travailleurs à abandonner la lutte de classe pour bien voter à gauche, il distillait dans la classe ouvrière le poison nationaliste sur lequel le FN prospère aujourd'hui. Le FN n'avait plus qu'à rajouter à l'expression « produire français » l'expression avec les travailleurs français. Alors on ne pourra pas combattre la progression des idées du Front National parmi les classes populaires sans rompre avec le nationalisme, sans rompre avec le protectionnisme économique et sans faire le bilan de cette décennie où la seule perspective avancée par les dirigeants du PCF était de bien voter pour avoir une bonne gauche au pouvoir. La montée électorale du FN va être de plus en plus un argument électoral à gauche, une forme de chantage pour faire accepter aux couches populaires une politique au nom du moindre mal. Le PS et le PCF nous demanderont de voter pour eux malgré tout, pour éviter le FN, et cela dès le premier tour, bien sûr. C'est pour cela que le chantage de Manuel Valls, quand il déclare le FN est aux portes du pouvoir, est un piège dangereux pour la classe ouvrière. Parce qu'il s'agit pour le Parti Socialiste de faire croire qu'il est le dernier rempart face à la montée du FN, alors qu'il devrait en fait de lui préparer le terrain. Les partis de gauche proposent de lutter contre le FN dans les urnes, y compris en votant à droite. Ce Front républicain revient à éviter l'idée que si le Front national représente un danger potentiel, la meilleure façon de s'en prémunir de ce danger, ce serait de voter pour ces équipes-là, de s'en remettre à eux, alors qu'ils sont responsables en bonne partie de cette situation. Face à l'inquiétude de la montée de FN, il ne manquera pas non plus les dirigeants de gauche pour proposer une nouvelle mouture de l'union de la gauche, d'en appeler à limiter les partis de gauche, voire à limiter les partis de la gauche. C'est cette unité au service de la bourgeoisie qui nous a conduit là où nous en sommes, c'est-à-dire à ce qu'une partie des travailleurs se tourne vers le Front National en croyant y trouver son parti. La direction du PCF, pour sa part, rabâche aujourd'hui pour redonner l'espoir à gauche. Beaucoup de politiciens bourgeois, ce dont la classe ouvrière a besoin, ce n'est pas d'espoir, mais une nouvelle équipe. L'espoir dans une nouvelle équipe de politiciens, pardon, et de conscience de ses intérêts de classe, et de confiance en ses propres forces. Alors si la crise s'aggrave, et si les équipes traditionnelles de la bourgeoisie n'arrivent pas à faire face aux explosions sociales qui ne manqueront pas d'arriver, la bourgeoisie n'hésitera pas à s'appuyer sur des moyens extra-parlementaires et violents pour assurer sa domination sur la société, comme elle l'a fait à diverses reprises par le passé. Ses forces aujourd'hui, elles accélèrent, se nourrissent et se renforcent des succès électoraux du Front National. En ce sens, la course de vitesse entre le mouvement ouvrier et l'extrême droite est engagée. Et l'extrême droite a une grande longueur d'avance. Le mouvement ouvrier est infiniment plus faible qu'il ne l'était dans les périodes similaires, dans les années 30 face à la montée du fascisme. C'est pourquoi les militants ouvriers, qui sont à juste titre inquiets des succès du FN, doivent s'atteler à réarmer la classe ouvrière, c'est-à-dire aider les leurs à retrouver confiance dans leurs forces collectives, à se tourner à nouveau vers la lutte de classe. Pour cela, il faut défendre un programme de lutte de classe, affirmer qu'il n'y aura pas de sauveur suprême pour changer notre sort collectif, ni à gauche, ni à droite, ni à l'extrême droite. Et dire à ceux qui sont inquiets de la montée de l'extrême droite qu'il n'y aura pas non plus de sauveur suprême à gauche ou à la gauche de la gauche. Aider les leurs, cela veut dire aider ceux qui, dans les couches populaires, ont voté le Front National ou sont attirés par le Front National, mais pas en leur faisant la morale. À eux aussi, il faut tenir le langage de la lutte de classe, expliquer pourquoi le monde du travail en est à subir l'offensive de la bourgeoisie et quelle est la seule voie possible. Nombre d'électeurs ouvriers du Front National ne sont en fait pas réellement gagnés par les idées ou son programme. Et ils peuvent être convaincus que le FN est autant au service de la bourgeoisie et du grand capital que l'UMP et le PS. Alors encore une fois, les institutions bourgeoises peuvent intégrer un grand parti réactionnaire, comme peut le devenir le Front National, comme le cherche Marine Le Pen actuellement. Ils peuvent l'intégrer au pouvoir ou avec des bouts de pouvoir, avec des stratégies ministérielles. Même cela représenterait un poids de plus dans la société et cela aggraverait encore les idées réactionnaires. Les premiers à en pâtir seraient les travailleurs d'origine. Et si la crise s'aggrave, si les classes sociales se mettent en mouvement, si la petite bourgeoisie se retrouve jetée à la rue comme dans les années 30, ou même si la classe ouvrière relève la tête, ce que nous souhaitons tous, bien sûr, la lutte de classe prendra une autre ampleur. Et si la lutte de classe s'intensifie, la bourgeoisie cherchera, peut-être dans les cadres du FN, les cadres d'un parti fasciste, à opposer un regain de la combativité ouvrière, capable d'encadrer une fraction de la petite bourgeoisie. Les succès électoraux actuels du Front National, ils feront la tâche. Et ce sera alors à mort, qui s'engagera. Comme dans les années 30, ce sera eux ou nous, la bourgeoisie ou le prolétariat. Et celui qui perdra sera écrasé pour des années. Il est difficile de dire quelle sera l'issue d'une telle situation. En tout cas, il est certain que l'absence d'un parti révolutionnaire, d'un parti qui soit capable de proposer une politique et un but révolutionnaire à la classe ouvrière, un parti qui soit capable d'ancrer la classe ouvrière sur cette voie, cette absence sera la garantie de perdre. Ça, on sait d'expérience. C'est pourquoi les jeunes, les militants inquiets de la montée du Front National, devraient surtout s'atteler à œuvrer dans ce sens en militant pour la construction d'un tel parti communiste et révolutionnaire.
Pour la classe ouvrière. En
dernière analyse qui m'a compté, c'est que la classe ouvrière, il renoue avec le terrain politique, avec ses luttes sociales. C'est ça qui changera. Si la classe ouvrière n'intervient pas politiquement pour défendre ses intérêts politiques, eh bien oui, ça continuera à se dégrader. Bien sûr, ça continuera à se dégrader. Alors, pour nous, la seule explication, c'est la gauche. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, le problème, c'est la dégradation de la société capitaliste de manière globale. D'accord ? Le PS, on sait que c'est un parti bourgeois. Et bien si, le problème, c'est que le PC, les stalinistes, ils ont tué la grande partie de la conscience de classe. Ils ont privé le parti. Ils ont appris aux travailleurs à voter PS. Et en ça, c'est ça la responsabilité de fond. Parce que quand le PS roule pour la bourgeoisie, roule pour le système capitaliste, c'est évident depuis 100 ans. Le PC, dans les années 20, au début des années 30, c'est la politique qu'il défendait. Et si le fait que le PS au pouvoir fasse la même politique que la droite, ça a déçu les travailleurs, c'est parce que il n'y a plus cette idée, ces repères de classe qui étaient présents quand il y avait des organisations ouvrières dignes de ce nom dans la classe ouvrière. C'est ça le problème de fond. La politique du PS est en faveur du système capitaliste, ben ça, c'est dans l'ordre des choses. Et nous, les travailleurs, on n'aurait pas dû en être déçus. Si on avait des discussions, c'est parce qu'on avait des discussions. S'il y avait des discussions, c'est parce que le PC, en particulier, a implanté ses discussions dans la classe ouvrière.
Résumer le PC, historique de 1930.
Le PC est descendre, sinon on n'y arrivera pas. Hein.
Il y a quand même un gros problème avec résumer le PC avec le PC historique de 1930. De nos jours, le PC, ils sont anticapitalistes. Le but des gens à gauche, c'est de s'unir, c'est de trouver des points communs, de trouver comment on va tous ensemble se réveiller et trouver un plan d'action pour limiter l'action du Front National, pour renverser le système mondialiste et pour finalement créer l'international communiste. Alors, quand j'arrive et que j'entends des trucs genre Mélenchon et le Front National, c'est du positionnisme tous les deux, c'est la même chose. Je peux pas, ça va pas. Quand j'entends que le PC, c'est Staline des années 30, je peux pas, ça va pas. Il faut qu'on voit quels sont nos points communs, quels sont nos amis, dans quelle mesure, quels sont nos points communs, et qu'on avance. Si on arrive et qu'on dit à tout le monde le PC, le NPA, tout ça, ça va pas, c'est sûr, tout le monde perd confiance en la gauche. Hein.
Ben oui, effectivement, nous, on milite politiquement pour faire perdre confiance dans la gauche. Parce que la gauche est une fuite historique de faire croire qu'elle est au service des travailleurs. La gauche, le PS et le PC, eux, ne sont pas anticapitalistes, comme tu dis. Les dernières élections cantonales, le PC, il a appelé à voter, et bon gouvernement, le PC, c'est vrai, depuis 2002. Sauf que depuis 2002, toute sa politique, ça revient à être dans la gauche. C'est aux dernières élections cantonales, ils sont appelés à voter pour battre la droite et l'extrême droite, c'est-à-dire à voter PS. C'est une vérité. Et ils soutiennent, ils sont en contractation permanente, à l'intérieur de Mélenchon, avec le PS. Ils défendent ce système en dernière analyse, bien sûr. Et nous, il faut qu'on reprenne le fuseau, parce qu'ils se mettent uniquement sur le terrain électoral. Il faut que les travailleurs ne pensent pas que leur avenir il est sur le terrain électoral. L'avenir des travailleurs il est sur le terrain de la lutte de classe. Voilà, c'est ça le langage qu'il faut porter aujourd'hui. Il faut la gauche aujourd'hui, c'est contre la gauche, oui. Parce que la gauche est au service du système quelque part. Pas quelque part, sûr.
Et ensuite, il a remis ça en 81, c'était un politicien réactionnaire pétainiste qui devient irrévocable, qui a fait toute sa carrière politique en faisant la chasse aux communistes et qui a été rebaptisé homme de gauche par le PC Mitterrand. Alors, quand des millions de travailleurs ont d'abord voté pour De Gaulle, et puis après voté pour Mitterrand, c'est-à-dire pour voter des hommes de la bourgeoisie, les pires que tu sais, ceux qui sont capables de mener l'offensive qu'ils l'ont menée en leur temps, ont fait guillotiner les communistes. C'est pas une plaisanterie. Eh bien, on a rayé tout ça, on dit « voilà nos sauveurs ». Voilà nos sauveurs. Eh bien, il faut bien comprendre que les travailleurs, ils ont voté pour l'un, ils ont voté pour l'autre, ils ont voté pour l'autre. Eh bien, pour qui? Pour quel homme bourgeois faut-il voter? Le PC a dit il faut voter pour des bourgeois si on veut s'en sortir. Le Gaulle, Mitterrand, pour aller au pouvoir. Il n'y a pas d'autre chose. Alors après, il y a des... Bon, Hollande et tout, bon, on en passe. Mais c'est eux qui ont détruit cette idée que les travailleurs avaient un sort propre et qui ont remis les travailleurs dans les mains de la bourgeoisie. Alors les travailleurs, il y en a, oui, ils disent plus jamais Hollande, plus jamais la gauche. Et ils ont raison, raison. Ils ont été floués, trahis, jetés à la rue. Ils sont dans la misère aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont envie d'autre chose. Mais ceux qui ont fait le terrain du Front National, c'est que, eh ben, puisqu'on a un homme bourgeois, un autre, on va en essayer un autre. Mais c'est le PC qui a fait ce boulot-là. Cette saloperie-là d'avoir enlevé au moins cette conscience aux travailleurs. Quand on est un travailleur, on vote pour les travailleurs.
C'est ça le problème qu'il faut se poser aujourd'hui.
gagnera. Mais si le prolétariat se dit lui-même, ah ben j'attends parce que je sais que je vais gagner, on gagnera pas. Il faut aussi avoir des volontés, se donner les moyens de gagner. Il faut essayer de faire des actions, il faut essayer de convaincre les gens, il faut essayer de se battre contre l'individualisme de la société. Si on fait rien, c'est qu'on accepte tout ce qui se passe. On travaille dans notre coin, on reste dans un cadre théorique. Je ne vois pas comment la société peut changer.
Alors, en ce qui concerne la réunion entre différents partis politiques dans ce pays-là, c'est évident qu'on est d'accord. Le problème, c'est que ça ne se fait pas. Moi, je suis d'accord pour qu'il y ait une unité entre les partis révolutionnaires. Le problème, c'est qu'eux ne le veulent pas. Ils sont depuis longtemps de ça. Moi, je suis beaucoup jeune, je suis plus d'accord, je suis fatigué, je crois que c'est un ministre. On n'est pas dans une société actuellement, qui nous permet de militer durement. Je vois autour de moi, partout où je suis actuellement, je suis un vieux militant des années 70, où l'effervescence des années 70 n'existe plus. Je le regrette. Nous le regrettons. Mais ça ne signifie pas qu'il faut arrêter de se battre. Moi, je suis convaincu qu'on peut arriver à obtenir des choses, qu'on peut arriver à arriver à non pas le parti révolutionnaire machin qui serait les ouvrières dirigeant les autres partis, ou les autres partis dirigeant les ouvrières, le problème n'est pas là. Moi je me suis battu à une époque où il y avait la nicotine révolutionnaire de solidité. Ça ne s'est pas fait, je regrette que ça ne soit pas fait. Et ça ne s'est pas fait à cause du groupe ouvrière un peu, et à cause du groupe du NPA. Je ne sais pas quoi dire, mais il est possible de continuer dans cette voie-là. Il est possible de faire un grand parti des travailleurs actuellement. Il faut en avoir un prix, il faut avoir un prix au niveau syndical aussi, de faire en sorte de qu'il n'y ait pas 50 sections syndicales qui bouclent le nez. Quand je vois dans mon entreprise que force ouvrière qui bouclent le nez avec la CFDT, que la CFDT n'existe pas, c'est vrai que ça fait sur le prix. Moi, je suis à la CFDT.
Oui, je suis d'accord. Mais quel mal si demain il y a des bagarres, des gros bagarres, est-ce que vous en tirez quoi à ce moment-là? Quand ça ira trop,
mettez-vous dessus.
Ils n'iront pas, qu'à un moment ils vont retourner en boulot. Est-ce que tu penses qu'ils iront jusqu'au bout d'un mouvement social?
Vas-y, vas-y. Ils
seront travailleurs, voilà, rue continue. Qu'est-ce qu'a fait le pays aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais la même chose. Mais attends, on parle pas des militants là, enfin. Non mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux une unité, il faut être d'accord sur des bases politiques communes. Ces gens-là, ils n'ont pas de conscience de classe aux travailleurs. Quand Mélenchon, il nous parle du propre protesto, c'est pas du tout la même chose que le Front National. Mais il véhicule des mauvaises idées dans la classe ouvrière. C'est pas simple, c'est pas ça, c'est pas la question de mener le combat. C'est pas ce terme-là.
C'est un effet direct.
Et les patrons, qu'ils soient français ou de notre pays, c'est nos ennemis. Et donc, il faut pas être à la revanche de ces gens-là.
Concrètement,
on regarde leur histoire,
des
années, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, l'unité, oui, moi je veux bien faire l'unité avec des militants de PC, on arrive à placer sur le terrain. De la classe ouvrière, c'est celle de la lutte de classe. Il ne faut en aucun cas faire confiance à leurs dirigeants.
Conséquences directes sur le militantisme syndical.
Et juste une chose, juste pour finir, c'est parti là, on peut les retrouver sur des questions sociétales. Si demain, le droit à l'avortement, pour le mariage, etc., il n'y a pas de problème, on peut être dans la rue. Et si demain, on ne doit pas être les patrons, c'est très bien que un moment ça collera pas. On les met sur le terrain de la lutte des classes.
Franchement, tu m'as convaincu.
Choix que leur compagnie.